France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Mariée très jeune, indignée par toute injustice, elle connut Jules Vallès à Bruxelles, où il s'était réfugié. Oui, c'est Vallès qui avait communiqué sa flamme de combattant à Séverine. Séverine à qui, pour son journal, il demanda tout d'abord d'être copiste, puis de corriger les épreuves. Et Séverine qui devint une grande journaliste. Séverine qui tout d'abord signa Séverin. Voici un hommage à Séverine, une histoire de famille, par le sang, par les luttes. Et plus étonnant car très laudatif, étonnant parce que tous les opposaient, sera le texte écrit par Léon Daudet sur Séverine. Séverine ardente, Séverine l'honneur de son métier, journaliste du XIXe siècle, mais qui vivra presque 30 ans du XXe et qui sera poignardée par l'épouvante de 14. Hommage à Séverine par Albert Riera, première diffusion sur la chaîne nationale le 26 avril 1955.
Hommage à Séverine. À l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, Denise Chanal et Jeanne Vita, deux de ses petites filles, André-Paul Antoine, Germaine de Caris, Francis Jourdain et Jacques Prévert rendront hommage à Séverine. Des textes de Léon Daudet, Hugues Leroux, André Salmon, Georges Montorgueil, Anatole de Monzy, Jules Renard, Auguste Rodin, Jules Vallès et Séverine seront lus par Jacques Hilling. Réalisation d'Albert Riera.
Ma grand-mère, Séverine, élue en son temps princesse du journalisme, née à Paris le 27 avril 1855, aurait aujourd'hui 100 ans. Un quart de siècle de labeur acharné, de lutte quotidienne contre l'iniquité, l'égoïsme, la misère, lui ont acquis à la fin du siècle dernier un renom universel. Aujourd'hui, il ne nous reste plus d'elle qu'une tombe de granit rose au cimetière de Pierrefonds, sur laquelle sont gravés ces mots « J'ai toujours lutté pour la paix, la justice et la fraternité ». Un nom sur quelques plaques de rue ou de square et des souvenirs. Ce sont ces souvenirs que nous allons évoquer devant vous. André Salmon a écrit
« Séverine n'est plus. Avec ce grand journaliste disparaît comme un instant du sentiment français. Si aux yeux de quelques-uns, Séverine put faire figure de révolutionnaire, elle était en réalité l'incarnation de cette intellectualité issue de notre vieille bourgeoisie libérale et qui, durant les années douloureuses et parfois troublées qui suivirent la guerre de 1870 et la Commune de Paris, s'efforça vers une définition et une réalisation de la solidarité sociale. Pour tous les Français du siècle dernier, témoins d'un tel apostolat, le nom de Séverine signifiait bonté, dévouement, sacrifice à toutes les causes généreuses, fût-ce au prix de quelque imprudence. Quel est l'homme de 40 ans qui n'a pas au moins une fois entendu un pauvre molesté ou un grand bourgeois témoin de quelque grande injustice s'écrier « Je vais écrire à Séverine ». C'était l'ordinaire recours des âmes inquiètes de fraternité militante. Vallès avait communiqué à Séverine sa flamme de combattant. Elle purifia l'air de la polémique de ce qui ne peut s'élever que d'une belle âme féminine, tour à tour fraternelle et maternelle. Son indignation, sa piété, sa ferveur lui inspirèrent des pages semées au jour le jour, qu'on croit disparues avec les vieux journaux froissés au vent de la rue et qu'il faudra retrouver pour écrire l'histoire vivante de l'entre-deux-guerres. Le temps des premières grandes grèves, le boulangisme et cette affaire Dreyfus dont elle fut, au jour tragique du procès de Rennes, le témoin pathétique.
Léon Daudet, que ses opinions ne prédisposaient guère à l'indulgence à l'égard de notre grand-mère, a pourtant écrit d'elle
« Pour les journalistes du sexe exquis, en notre pays, le tour est vite fait. Il y en a une, Séverine. Je l'ai connue, cette disciple de Vallès, moins amère que son maître. » Délicieusement jolie, un pastel de la tour et d'une simplicité charmante. Elle était révoltée dans l'âme, révoltée de gauche et ardemment, romantiquement révolutionnaire. Je la voyais arriver au journal avec son papier dans sa petite main, rieuse, moqueuse, bonne camarade, toujours disposée à rendre service. Je l'aimais bien. Et quand on l'accusa de mettre dans sa poche l'argent de son carnet de charité, ce qui était une calomnie indigne, je me fâchai et faillis claquer l'imbécile qui comportait au journal cette saleté. Vu les gouffres qui nous séparaient, je ne la vis plus après l'affaire Dreyfus, que de loin en loin. Mais je la lisais toujours avec plaisir. Quoique dans la gêne, elle avait toujours un billet pour le camarade dans la purée. Et je crois bien qu'elle finit presque dénuée et ayant du mal à placer sa copie à cause de ses opinions.
On ne peut mieux parler de notre grand-mère qu'en la laissant se raconter elle-même. Séverine s'appelait Caroline Rémy. Elle était fille de fonctionnaire, élevée par des parents sévères. Ma sœur Denise va nous lire deux petits extraits de Lynn, le roman de son enfance.
Élevée seule, sans amis de son âge, Lynn, qui ne va pas à l'école, ainsi que les enfants du commun, grandit à la façon d'un petit arbre de préau, cerné de hauts murs, qui tend son effort à les rejoindre, à les dépasser. C'est la petite fille la plus imaginative, la plus romanesque déjà, et la plus ingénue qui soit au monde. La seule personne qui la comprenne est sa grand-mère. Grand-mère. Quelquefois, Lynn prononce ces deux mots toute seule, à mi-voix, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour mieux en retenir la câline douceur. Puis elle lâche ce qu'elle tient, sans trop regarder où ça tombe. Prend à travers l'appartement une course de poulain fou, et dans la bousculade des portes, des meubles, va s'abattre essoufflée sur l'épaule de la vieille dame, fait chavirer les besicles, culbute le roman, couvre le vieux et charmant visage de baisers éperdus. « Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui te prend ?» gémit la gueule ravie et tarabustée. « Rien, grand-mère, j'ai pensé à toi. » Élevée en vue du mariage, elle souhaite entrer au théâtre, être le porte-parole des grands poètes. « Il me semble, dit-elle, que les vers s'envoleraient radieux de mes lèvres, comme ces oiseaux que j'aime tenir dans mes mains, afin de sentir leur essor vers la liberté, leur frémissement de joie quand s'ouvre l'étreinte. Mais son père a proféré « mariée » ou « institutrice ». Sa vocation, je la préférerais mieux morte. Alors, elle s'est mariée à 16 ans avec un homme qui a le double de son âge et dont le caractère se révèle très vite violent et autoritaire. Un enfant naît, qui était notre père, et ils se séparent après 14 mois de vie commune. Lynn est revenue au foyer paternel. Elle a du goût, sait peindre et dessiner. Elle fait de la broderie pour vivre, donne des leçons de piano, court le cachet. Elle était très musicienne. Elle aimait beaucoup la musique. Et elle aimait aussi les chansons légères, les chansons gaies. À cause de cette grand-mère tant aimée, elle aimait cette chanson de Béranger. Combien je regrette mon bras si dû, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dû, ma jambe bien faite et le temps perdu. Une scène d'amateur l'attenta, rue de la Tour d'Auvergne. Je portais bien la toilette, c'est tout dont je me souviens, nous disait-elle plus tard. De la scène où elle avait passé quelques soirs, elle garda toujours la nostalgie. Elle continuait de s'y sentir chez elle, regrettait les entr'actes toujours trop longs, n'était satisfaite que lorsque le rideau se relevait. Passion si forte, si tenace, que tant qu'elle en eut la force, elle en subit l'enchantement. Elle aimait beaucoup les artistes, et les artistes le lui rendaient bien.
André-Paul Antoine, vous qui l'avez connue au Théâtre Antoine, quel souvenir avez-vous gardé d'elle ?
Eh bien, cher ami, le souvenir que j'ai gardé de Séverine est le souvenir d'un très jeune garçon. Vous savez que Séverine était une grande amie d'Antoine, une très grande amie de ma mère également. Elle venait souvent au Théâtre Antoine et elle venait très souvent chez nous. C'est d'ailleurs à elle qu'Antoine doit d'avoir découvert Henri Bernstein. C'est Séverine qui a apporté au directeur du Théâtre Antoine d'alors le manuscrit de la première pièce de Bernstein qui s'appelait « Le marché ». Bernstein était à ce moment-là, avait eu des ennuis avec l'autorité militaire et il était en Belgique où il attendait une amnistie. L'amnistie qui a fini par venir d'ailleurs à la suite du succès du marché, en sorte qu'on peut dire que si la carrière d'Henri Bernstein a commencé d'une façon éclatante, c'est à Séverine qu'il l'a dû. En dehors de ça, mon Dieu, mes souvenirs personnels, j'ai gardé devant les yeux un très beau visage, un visage très doux, avec deux yeux magnifiques, un regard étonnant, une très grande douceur et une auréole de cheveux blancs qui la nimbait vraiment d'une façon lumineuse. Ma mère m'emmenait souvent à Pierrefonds, où nous allions la voir vers la fin de sa vie. Elle y vivait au milieu des souvenirs de Vallès. Et c'est là que j'ai eu, tout petit garçon, une grande joie. Séverine avait écrit un livre qui s'appelait « Sacatou » et qui était l'histoire d'un jeune caniche blanc à qui il arrivait beaucoup d'ennuis à cause de l'organisation de la société. Il allait à la fourrière et puis on le sauvait et il finissait par trouver des gens bien. Et qu'il faisait vivre normalement. Et Séverine avait eu l'adorable idée de dédier à son petit ami que j'étais, au petit neveu, comme elle m'appelait, Sacatou. J'ai le souvenir de cette dédicace. Elle était ainsi rédigée à André-Antoine pour qu'il puise dans cette brève histoire la notion du doute salutaire et l'amour des bêtes supérieur aux hommes. Ça m'a été tellement au cœur que des années après, vous voyez, je m'en souviens encore.
Voyageant avec le docteur Guébard, qui fut son second mari, Séverine connut à Bruxelles Jules Vallès, l'insurgé de la Commune échappé par miracle au massacre de la répression. Après le vote de la loi d'amnistie de 1880, Jules Vallès rentra à Paris et vint demander à Séverine son concours pour une représentation au bénéfice de l'ex-colonel Lisbonne. Elle lui dit qu'elle s'ennuyait. Il n'eut pas de peine à la convaincre qu'il y avait autre chose à faire d'une vie. « Travailler, lui dit-il. Comment ? » Il avait besoin d'une copiste, elle n'hésita pas. Son admiration pour Vallès était si grande, sa pensée s'incorporait si bien à la sienne, que celui-ci lui confia bien vite des travaux plus importants. Elle eut à corriger des épreuves, rajoutant ici un mot, mettant la dernière main à un article. Elle faisait du Vallès à tel point, dit Georges Montorgueil, qu'on ne distinguait plus le pastiche de l'original. Rarement communion d'âme et d'esprit fut plus complète. Ils étaient devenus inséparables. Liaison, non, adoption. Ils s'étaient réciproquement adoptés par la plus singulière des adaptations. Pour écrire La Rue à Londres, Vallès proposa à Séverine de l'accompagner en Angleterre, où il avait vécu des années d'exil. Mais à la maison, la famille poussa les hauts cris, déclara que cette collaboration devait cesser. Devant la désapprobation générale, Lynn, désespérée, écrivit à Vallès.
« Je meurs de ce qui vous fait vivre, de révolte. Je meurs de n'avoir été qu'une femme, alors que brûlait en moi une pensée virile et ardente. Je meurs d'avoir été une réfractaire. Aimez-moi un peu pour cela, et gardez, en cet esprit que j'ai si fort aimé, si profondément compris, une place à votre bien-avré petit ami. »
Puis, elle se tira une balle de revolver dans la poitrine. Heureusement, elle visait mal. Un médecin fut appelé d'urgence, demanda des ciseaux pour couper la chemise. « Docteur, coupez dans la couture, » dit sa mère, malgré son angoisse. La famille résignée la laissa désormais agir à sa guise. La rue à Londres achevée, Vallès la lui dédia en ces termes.
« Ma chère enfant, vous avez fait à ma vie le cadeau d'un peu de votre grâce et de votre jeunesse. Vous avez fait à mon œuvre l'offrande du meilleur de votre esprit et de votre cœur. » C'est donc une dette que mes cheveux gris payent à vos cheveux blonds, camarades en qui j'ai trouvé la tendresse d'une fille et l'ardeur d'un disciple.
Grâce à la générosité du docteur Guébard, le journal de Vallès, Le Cri du Peuple, reparut. Vallès poussait Lynn à prendre la plume, non plus pour recopier ses hiéroglyphes désespoir des typos, mais pour elle-même. Elle entra dans le journalisme le 23 novembre 1883, elle ne le quitta qu'à sa mort en 1929. Elle signa d'abord Séverin, puis Séverine. Vallès, épuisé par les misères de l'exil, ne bougeait pour ainsi dire plus de son fauteuil. C'est Séverine qui assurait la liaison entre lui et le journal. Il s'éteignit le 14 février 1885. Ses obsèques furent une manifestation grandiose et une journée d'émeute. Le peuple de Paris avait quitté ses faubourgs pour venir faire escorte à celui qui avait écrit
« Mon nom restera affiché dans l'atelier des guerres sociales comme celui d'un ouvrier qui ne fut pas fainéant. »
Du boulevard Saint-Michel, où elle vivait avec le docteur Guébard, dans un appartement sur le même palier que celui de Vallès, elle émigra vers la maison des journaux, 142 rue Montmartre. Séverine, directrice du Cri du Peuple, maintint son journal de 1885 à 1888, puis dut l'abandonner, faute d'argent.
Dans son dernier article, le 29 août 1888, elle disait
« Ce que je vais faire maintenant, c'est l'école buissonnière de la Révolution. J'irai de droite ou de gauche, suivant les hasards de la vie, défendant les idées qui me sont chères, mais les défendant seule, sans autre responsabilité que celle de ce que j'aurais signé de mon nom. Mon bagage est plié dans un mouchoir rouge. Quand je voudrais que l'on sache où je suis, je casserai une branche sur la route et je le mettrai au bout. Les amis me suivront des yeux. » Le 18 avril 1892, le sculpteur Auguste Rodin lui écrit
« Chère Madame Séverine, hier j'ai lu le Figaro. Vos plaidoyers me transportent. J'en vois la justice et je partage toujours votre colère ou votre émotion. Vous êtes une de nos consciences. Vous parlez à des gens bêtement pressés qui se retournent ravis. »
Elle a aussi de nombreux amis inconnus. Témoin cette lettre, écrite sur du papier ministre, d'une grande écriture appliquée comme un compliment.
« Madame Séverine, je sous-signais Olivier Panris et ses enfants. Profite de votre passage à Liège pour vous remercier d'avoir bien voulu en 1895 vous intéresser au sort de notre infortuné fils et frère, Louis Panris. Ce garçon, Madame Séverine, fut condamné par le conseil de guerre de Saïgon à être fusillé. Nous vous considérons comme son sauveur par suite d'un de vos articles toujours si bien rédigés. Mon fils est toujours détenu à Béroagia. Espérons qu'il sera un de ces jours pris d'une mesure de clémence. Tout en vous remerciant du plus profond de nos cœurs, recevez, Madame Séverine, l'assurance de bienvenue à Liège, au Panris, rue Vivigny 146, le 11 novembre 99.
C'est que la vigilance de Séverine n'est jamais en défaut. N'a-t-elle pas dit
« Je suis ainsi faite, et je m'en excuse, que toute injustice m'émeut. »
Et lorsqu'Octave Mirbeau est saisi, pour avoir préfacé un écrit subversif, Séverine clame
« Saisissez donc cela. Saisissez donc le vent qui nous pousse, nous, génération en pleine force, nous qui avons un cerveau et un cœur, vers l'enfer des miséreux. »
L'enfer des miséreux est grand, en ce siècle où naît la grosse industrie, où des fortunes fabuleuses s'édifient, sur la peine d'hommes, de femmes et d'enfants que ne protègent pas encore les lois du travail. La grève de Cholet réunit près de 11 000 tisserands. La misère y est affreuse. Séverine ouvre une souscription pour aider les grévistes, elle les stimule de son énergie. Le 31 juillet 1890 à Villebeuf, au Puy Pélissier, dans le bassin de Saint-Étienne, un coup de grisou vient d'enterrer vivant près de 200 hommes, faisant 130 tués et 70 blessés. Séverine va chez Arthur Meyer. « Je veux partir. » Le directeur du Gaulois est réticent. « C'est à nous d'organiser les secours. Aidez-moi, » dit Séverine. Le duc de Doudouville donne les premiers billets bleus. Séverine part. Elle arrive le lendemain sur le carreau de la mine. Ce qu'elle voit la bouleverse. À l'ingénieur qui, parasé, boueux, remonte au jour, elle réclame d'être du prochain voyage. « Madame, je ne prendrai jamais une telle responsabilité. » Il la renvoie au préfet, qui la renvoie au directeur. Elle fait tant et si bien que, de guerre lasse, on l'autorise à ses risques et périls d'aller au fond. On l'équipe d'une lampe et d'une cotte de mineur. Les sauveteurs, dans la benne, elle au milieu d'eux, on descend. Et la petite troupe s'engage dans les galeries encore solides. Certaines ne se laissent pénétrer qu'à genoux. L'air devient rare. Chacun suffoque. On parvient aux dernières limites. Derrière, ce sont les éboulements, le puits en flammes, l'inondation. Spectacle de cauchemar, spectacle d'enfer. Quand on revient à la galerie centrale, il faut laisser passer sur de courtes civières les morts nouveaux qu'on a retrouvés, carbonisés. Appuyée à la paroi suintante, Séverine voit passer les victimes. L'eau coule dans son cou. Enfin, la benne est libre et l'équipe remonte. Séverine prend à peine le temps de se revêtir, court au télégraphe et rédige pour ses lecteurs le récit de ce qu'elle a vu. 24 heures après la parution de son article, la souscription s'élève à 12 000 francs or. Elle devait atteindre 45 000 francs. Mais en rentrant de la mine, Séverine a dû s'aliter. Le Gaulois publie cet entrefilet, sous la signature d'Arthur Meyer. Madame Séverine, victime de son dévouement, est malade en ce moment. Nous la remercions ici publiquement d'avoir aussi noblement rempli son mandat. L'année suivante, au début de décembre 1891, nouvelle catastrophe à Saint-Étienne, cette fois au puits de la Manu.
Notre ami Jacques Prévert s'est offert, en hommage à Séverine, à lire un extrait de ses articles.
La manière la plus simple de parler des êtres, c'est de les laisser parler. La manière la plus simple de parler de Séverine, c'est de lire ce qu'elle écrivait. Et quand elle parlait de la mine, elle savait ce qu'elle disait. Voici Séverine, revenue à Saint-Étienne. 56 hommes, 56 chevaux. On emporte les hommes à l'hôpital du soleil. On dépèce les chevaux, que l'on remonte quartier par quartier. Et la mine, demandai-je à Colombet. La mine, plus rien. C'est le chaos. M'y voici. Dans la boue, sous la pluie, de hautes piles d'énormes bûches, sans taches fraîchement coupées, fraîchement dépouillées, toutes blanches parmi ces ténèbres. Sous le haut hangar de la recette, des lueurs flambent, et tout à coup une ombre géante apparaît comme un pendu fabuleux qui oscille lourdement après le harpon. C'est un grand cheval pommelé, un percheron puissant, qu'on a pu remonter d'un bloc. Sa crinière flotte dans l'âpre bise qui nous gèle tous. Ses yeux gardent une impression d'horreur. Ses membres retombent avec un geste presque humain. La lassitude de l'être fatigué, qui enfin se détend. Il demeure allongé sur le sol. Puis, avec des cordes, on le hisse sur la charrette, pleine des débris de ses camarades de peine et de délivrance. Le mouvement lui fait prendre des attitudes tragiques de coursier de champ de bataille dont la mitraille a cassé les pattes et qui essaie de se relever. Tout à l'heure aussi, le poitrail soulevé, avec l'homme qui, debout, lui maintenait la tête, il a rappelé d'étonnantes manières les chevaux de Marly qui gardent l'entrée des Champs-Élysées. Un mineur à côté de moi avait les larmes aux yeux. C'est-il pas dommage, une si belle bête, et puis si avenante, et puis si courageuse. Un ami, quoi. Lentement, l'animal a semblé s'étendre sur l'amas de charognes, comme sur une bonne litière. Après tout, pauvre vieux, il se repose, a repris l'ouvrier, paraphrasant sans le savoir, avec une envie mélancolique, le mot de Luther au cimetière de Worms.
Sous un ciel de meurtre, plaqué de traînées rouges, comme si on y avait égorgé le soleil. Au haut d'escalier si empli de ténèbres que j'y avançais anxieuse, les mains tendues, le pas hésitant, tout au fond des faubourgs gris de suie, tout au fond des campagnes noires de houille, en pleine boue, en plein vent, dans des taudis si affreux que beaucoup chez nous n'y voudraient pas loger leurs chiens, j'ai entendu aujourd'hui les hurlements de la douleur humaine. Sur mes joues, d'autres larmes ont coulé que celles que je versais moi-même. Des bras convulsifs se sont noués à mon cou. J'ai senti battre contre mon cœur désolé des cœurs bondissants d'aiguës souffrances. Et je n'ai jamais compris davantage la fraternité intime qui unit toutes les femmes, quelle que soit leur situation, dans le regret et dans le désespoir. Rien, vous entendez, rien ne peut donner idée de ce que je vois ici depuis 2 jours. Grâce à la générosité d'un bon riche qui m'a envoyé 1500 francs pour parer aux premières détresses, j'ai pu ne pas arriver les mains tout à fait vides. Donner 10 francs par enfant dans des familles nombreuses, autant aux veuves seules, autant aux tristes vieilles mères sans soutien désormais, entre leurs doigts tremblants, la goutte d'or glissait comme le grain d'un rosaire.
Et Séverine ajoute, pour unique commentaire à son reportage vécu,
« Quand donc établira-t-on le bilan que je réclame? Le bilan que l'on a le droit de réclamer, en présence de catastrophes si réitérées, si proches, et desquelles, je vous assure, le public et le peuple, l'un consommateur, l'autre producteur, commencent à se lasser. Simplement ceci, établir les bénéfices de l'entreprise, le prix de revient de l'accident, et ce qu'aurait coûté, les précautions à prendre, les réformes à apporter, les changements d'outillage, l'augmentation de personnel, les frais d'entretien pour éviter le dit accident. En vérité, je vous le dis, le sinistre avec sa moyenne ordinaire de victimes, 100 à 150, représente encore du boni. Concluez.
Les casseuses de sucre sont en grève. Ce qu'elles gagnent, écrit Séverine, elles gagnaient 60 centimes par 100 kilos, c'est-à-dire, quel que fût leur courage, 3 francs 25 à 4 francs par jour. On est venu leur dire, il y a presque une quinzaine, vous n'aurez plus que 50 centimes par 100 kilos. La concurrence est trop forte, c'est à prendre ou à laisser. Elles ont laissé, elles sont parties. Elles n'ont plus d'ongles, elles n'ont plus de dents. Les uns usés jusqu'à la chair par le maniement du sucre, les autres écaillés, perdus, effrités par les poussières qui s'en dégagent, ces poussières qui brûlent les paupières, le gosier, qui leur éraille la voix, déterminent des gastrites, la tuberculose.
Francis Jourdain doit au destin et aussi au privilège de l'âge d'avoir connu Séverine pendant de nombreuses années.
Séverine, qui était mon aînée de plus de 20 ans, a été la camarade d'enfance de mon père, aussi m'a-t-elle connu moi-même tout enfant. J'ai gardé d'elle un souvenir précieux de sa bonté, de son intelligence, de son courage aussi, et de l'abnégation dont elle m'a donné tant de preuves. J'ai bien souvent été chez elle solliciter une démarche pour un homme injustement ou trop sévèrement puni, pour un article, pour... jamais je n'ai trouvé de refus de sa part. Elle avait un très grand talent d'orateur, un très grand talent d'écrivain, et surtout un grand cœur. Elle avait conquis une audience considérable, elle avait accès dans tous les grands journaux de l'époque, jusqu'à l'affaire Dreyfus. Je n'ai pas besoin de dire de quel côté Séverine avait tout de suite dirigé ses pas et aussi son combat. Aussi, quantité des portes qui lui avaient été jusqu'ici ouvertes lui furent fermées. Elle n'avait plus à sa disposition que quelques journaux où l'on payait mal, où l'on payait difficilement, ou même où l'on ne payait pas du tout. J'ai été témoin, je le répète, de la délicatesse et de l'affection, de la pitié aussi, qu'elle a toujours manifestée pour les vaincus. Il y a d'ailleurs un modèle qui me paraît résumer très complètement son état d'esprit. Séverine était une sentimentale et non pas une dogmatique. Elle a eu jadis, dans le cri du peuple qu'elle dirigeait, vers 87, un petit conflit avec son ami Jules Guesde, plus théoricien, et sur une question sur laquelle il n'était pas d'accord, Séverine a fait un article qui se terminait, si j'ai bonne mémoire, par ces mots, « Avec les pauvres toujours, malgré leurs fautes, malgré leurs erreurs, malgré leurs crimes ». Je crois qu'on ne peut pas mieux résumer ce qui a été non pas la doctrine de Séverine, mais son élan, ce qui a justifié tout son comportement généreux et courageux toute sa vie.
À cette époque, Séverine vit un roman d'amour qui se poursuivra longtemps avec des éclipses, aux côtés de Georges Labruyère, un de ses collaborateurs du Cri du Peuple. Les artistes l'aiment et la chérissent. Stenlen dessine, François Coppée, Hugues Leroux écrivent pour elle. Marcel Le Guay lui dédie une romance intitulée « La mère Jartoux ».
L'antisémitisme passionne le monde. Séverine ne voit d'autre remède aux excès de l'intolérance que d'aller le 3 août 1892 demander audience au pape Léon XIII. « Il m'a semblé, écrit-elle, d'un puissant intérêt d'aller voir à ce propos le chef suprême de l'Église, celui qui lie et délie, le pilote incontesté des consciences catholiques. Tout ici procède par demi-teinte, poursuit Séverine. De même qu'au Vatican, dans la pénombre des salles, chacun marche sourd, chacun parle étouffé, de même aussi chacun pense mezzo voce. Les pas s'y raccourcissent et l'initiative y replie ses ailes, volontairement, s'astreignant à évoluer dans le cadre étroit du domaine ecclésiastique. Un glissement de semelles sur le pavé de marbre, luisant comme s'il était mouillé, un murmure de syllabes à peine distinctes, en cet idiome déjà si chuchoteur, une soutane qui s'incline et attend, puis précède, se prosterne au seuil d'une chambre voisine, ses faces semblent disparaître dans le mur. C'est mon tour d'audience. J'entre, je m'incline trois fois, une main prend la mienne, me relève, et doucement, « Asseyez-vous, ma fille, et soyez la bienvenue. » Le Christ, dit Léon XIII, a versé son sang pour tous les hommes sans exception, et même de préférence pour ceux qui, ne croyant pas en lui, s'obstinant dans cette méconnaissance, avaient le plus besoin d'être rachetés. Envers cela, il a laissé une mission à son Église, les ramener à la vérité. « Par la persuasion ou la persécution, Saint-Père ?» demande Séverine. « Par la persuasion, répond avec vivacité le pape. La tâche de l'Église n'est que douceur et fraternité. C'est l'erreur qu'elle doit atteindre, s'efforcer d'abattre. Mais toute violence envers les personnes est contraire à la volonté de Dieu, à ses enseignements, au caractère dont je suis revêtu, au pouvoir dont je dispose. Alors, la guerre de religion ? Ces deux mots ne vont pas ensemble. et la main qui porte l'anneau épiscopal a fait un geste impératif. Reste, Saint-Père, la guerre de race. Quelle race ? Toutes sont issues d'Adam que créa Dieu. Que les individus suivant les latitudes aient un teint différent, un aspect dissemblable, qu'importe cela, puisque leurs âmes sont de même essence, pétries du même rayon. Si nous envoyons des missionnaires chez les infidèles, chez les hérétiques, chez les sauvages, c'est parce que tous les humains, tous, vous entendez bien, sont des créatures de Dieu.
Ému par le spectacle d'un homme seul, livré aux crachats et aux huées, et clamant son innocence avec une dignité inflexible, quelques courageux, dont Séverine, se rangent aux côtés du traître Dreyfus, condamné par le conseil de guerre à la déportation. La violence des passions déchaînées par ce procès est effarante. Le dessinateur Raffaelli écrit à notre grand-mère
« Dans quelle débâcle vivons-nous ? J'en suis effrayé. Ne sommes-nous pas entraînés comme on doit l'être dans ces inondations où s'en vont pêle-mêle les bêtes, les meubles et les gens, où l'homme n'a pas plus d'importance qu'une botte de foin qui flotte près de lui ? Enfin, on peut toujours s'envoyer une poignée de main de loin et un souvenir reconnaissant et affectueux. » Raffaelli.
Mais Émile Zola, une fois sa conviction établie, écrit « J'accuse » et met le poids de son talent, de sa fortune, de sa liberté, de sa vie peut-être même, dans le plateau faussé de la balance de Thémis. Au procès Zola, Séverine est au banc de la presse. Elle écrit
« Ah, pauvre grand homme, lancé dans l'aventure, à l'automne de sa vie, toute la santé physique de son être usée par l'incessant labeur, comme il apparaît touchant et héroïque, de s'être fait le professeur d'énergie de toutes nos âmes sans direction.
Je laisse à l'histoire le soin de juger mon acte qui était nécessaire. Je n'ai derrière moi ni ambition politique, ni passion de sectaire. Je suis un libre écrivain qui a donné sa vie au travail, qui rentrera demain dans le rang et reprendra sa besogne interrompue. L'affaire Dreyfus, ah messieurs, elle est devenue bien petite à l'heure actuelle. Elle est bien perdue et bien lointaine devant les terrifiantes questions qu'elle a soulevées. Il n'y a plus d'affaire Dreyfus. Il s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des droits de l'homme, celle qui a donné la liberté au monde et qui devait lui donner la justice. Dreyfus est innocent, je le jure. J'y engage ma vie, par tout ce que j'ai conquis, par le nom que je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à l'expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent. Que tout cela croule, que mes œuvres périssent si Dreyfus n'est pas innocent. Il est innocent. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur.
Aurore qui se lève, vérité vengeresse, écrit Séverine. De 20, nous étions 100, puis 1000. Et dès lors, à chaque démonstration publique, à chaque fait nouveau, le nombre des partisans de la vérité grandissait.
Dans les faubourgs de Rennes, au milieu des verdures baignées de clarté et la bonne auberge des Trois Marches. C'est une pauvre demeure très vieille, très propre, souriante, hospitalière. D'immenses pains coupés par tranches fleurbons le froment et le cidre met des reflets d'ambre au flanc des carafes rebondies. Dans la salle close, les voilà tous assis. Picard, Jaurès, Bache, Gabriel Monod, Gast, Léret, Thurot, Hilde, Monira, Sicari, Viviani, Stock, Desmoulins, Barbet, etc. Ceux qui passèrent, les docteurs Reclus, Brissot, Vidal, ceux qui passent, Mirbeau, Laroche, Molinier, Havet, Cordet, Navarre, hier Pozzi, gloire universelle, ce soir Julien Binda, nouveau venu dans la notoriété, demain, n'importe quel grand esprit, d'où qu'il se soit orienté vers la lumière. Et je pense qu'un jour, quelque destin que les dieux nous gardent, il y aura dans cette auberge une inscription que là se réunirent les défenseurs de la justice, les tenants de la vérité, et que nos enfants, puis leurs enfants, exprès venus, la regarderont songeurs, fiers d'être de notre sang.
Il était important qu'une femme écrivain participât à cet hommage. Germaine de Caris, qui débuta dans le journalisme alors que Séverine était âgée, qui l'a bien connue, qui l'a vénérée et dont notre grand-mère, en plus de l'affection qu'elle lui portait, appréciait le talent, va parler de ses derniers instants.
Nous portons le deuil de Séverine depuis 26 ans. Mais ce n'est pas ton anniversaire que nous célébrons. Un anniversaire est une invitation à ne pas oublier. Pour Séverine, chaque année, chaque jour, nous invite, nous oblige à nous souvenir. En cette fin d'avril 1929, Séverine mourait. Nous étions abandonnés. C'était un mardi. Depuis le jeudi, nous la savions perdue. Docteur Vidal pensait qu'elle n'irait pas jusqu'au lendemain. Samedi pourtant, elle luttait toujours. La bataille, car c'en fut une et rude, devait durer jusqu'à mardi. Celle dont toute la vie n'avait été que combat a résisté presque une semaine à la mort. Au fond de notre cœur, nous pouvions admettre que Séverine fut vaincue. Ça ne nous paraissait pas possible. Lorsque le dimanche, nous apprîmes que tout serait bientôt fini, nous n'avons pas voulu y croire. Dans le train qui roulait vers Pierrefonds, à mesure qu'on approchait, l'espoir montait. Nous allions la trouver là encore, un peu plus fatiguée, un peu plus faible, mais là, présente, continuant d'éclairer toutes choses de son miraculeux visage. Je n'étais pas trompée, elle était là. Tout était sauvé. Ceux qui sont venus à Pierrefonds le savent. Dans sa maison, et trois marches dans sa maison, on ne pouvait plus désespérer. Elle était là, au creux de son grand lit à baldaquin. Non, ce souffle régulier ne s'arrêterait pas. Et Rosa, la servante au grand cœur, comme elle l'appelait, Rosa qui depuis si longtemps avait la charge de veiller sur elle, ne la laisserait pas partir, j'en étais sûre. Il y avait aussi des signes qui disaient d'espérer, de minuscules symboles auxquels on s'accrochait. De violettes dans le jardin, l'âne brun au fond de l'écurie qui rongeait paisiblement une racine, des primes vertes dans le sous-bois plein de soleil, un insecte qui bourdonnait autour des fleurs. Les rires et les appels de petites filles qui jouaient dans le village, des coqs qui chantaient, une femme qui labourait une terre. Et puis, cette avant-dernière nuit, le clair de lune qui se répandait sur les rues, les prés, les hauts arbres, les coteaux, le lac, une horloge qui sonnait placidement son heure au château, le grand ciel étoilé, et tout ce village autour d'elle et de sa maison, tout ce village endormi dans la confiance. La veille, Denise, celle de ces petites filles qui lui ressemblent le plus, Denise, ma chère Denise, m'avait bien montré de la terrasse le cimetière allongé sur la colline d'en face et le coin de famille derrière les sapins où elle reposerait. Mais tout cela était calme et doux. Ce serait pour bien plus tard, bien plus tard. Séverine, après tout, n'avait que 74 ans. Sa maman était morte à 89 ans. Cependant, l'inquiétude de Paris dans la maison ne cessait de retentir avec le timbre du téléphone. On appelait les plus illustres, les plus humbles. Tous avait compris ce que nous étions refusés à comprendre. Lundi, vers la fin de l'après-midi, elle ne respirait plus. Le râle commençait. Denise me dit, je vous assure que c'est vrai, Denise me dit, l'hirondelle qui avait fait son nid dans l'angle de la basse-cour vient de mourir. Signe, le chien pékinois apporté jadis par Joseph Caillot, signe que Séverine aimait tant, renonçait à sauter sur le lit de sa maîtresse. Blotti dans un coin de la chambre, il ne bougeait plus. Et dans la cour, les grands chiens tapageurs, le loup noir, les pagnols gris aux yeux verrons, étaient assis l'un contre l'autre, ne donnant même plus de la voix lorsque tintait la sonnette de la grille. Depuis sa maladie, Séverine, elle qui rédigeait un article par jour, avait essayé d'écrire. Quelques semaines plus tôt, elle était parvenue à couvrir une demi-page. Elle avait dû s'arrêter. Mais elle ne s'était pas séparée des journaux qui continuaient aux trois marches de lui apporter les nouvelles. Elle avait exigé qu'on les déposât sur son lit. Elle est morte, la main appuyée sur ses journaux qu'elle venait de lire et d'annoter pour ses prochains articles. J'ai senti la dernière chaleur de cette main ce jour-là. Jusqu'à ma mort, je le dis ici, je n'envierai rien à personne. Qu'il me soit permis d'ajouter encore un mot. Séverine, qui avait poignardé l'épouvante de 1914, n'aura pas vu ce que nous avons vu depuis. Elle n'aura pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Elle n'aura pu prévoir ce que désormais nous prévoyons. Cela, du moins, lui a été épargné. On a dit qu'elle était l'honneur de son métier, de notre ancien métier. Mais non, elle était bien davantage. Elle était l'honneur d'un monde. D'un monde disparu.
Germaine, ne pleure pas. Souviens-toi que Séverine était trop ardente pour jamais désespérer. Morte, elle était étendue sur son lit, dans cette robe de chambre de laine blanche, achetée longtemps d'avance et qui avait un peu jauni au cours des années dans les papiers de soie. Avec son bonnet blanc à dentelle, les mains croisées sur sa poitrine, toute grand-mère qu'elle était, elle me semblait un preux du Moyen Âge. Et si la longue épée n'était pas entre ses mains, moi je la voyais. Je la vois encore luisante de sa poitrine à ses pieds, cette arme que lui avait léguée Vallès. La lutte contre l'hydre, contre la méchanceté aux multiples têtes, a été toute sa vie. Sa vigilance n'a jamais failli, ni sa loyauté. Dans mon souvenir, elle est le symbole de la droiture dans le combat.
À l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, Denise Chanal et Jeanne Vita, deux de ses petites filles, André-Paul Antoine, Germaine de Caris, Francis Jourdain et Jacques Prévert lui ont rendu hommage. Des textes de Léon Daudet, André Salmon, Georges Montorgueil, Auguste Rodin, Jules Vallès et Séverine ont été lus par Jacques Hilling. Réalisation d'Albert Hiera.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 26 avril 1955. Vous pourrez...